Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Mélanie Chalandon.
La conquête de l'Amérique au XVIe siècle, nous dit-on, démontrait la supériorité technique des Européens.
Oui, les Espagnols et les Portugais ont conquis les Amériques au XVIe siècle avec vraiment très peu d'hommes. C'est à cause de la supériorité que les Européens avaient acquise dans les guerres continuelles auxquelles ils se livraient entre eux. Leurs armements, leurs tactiques militaires devinrent par la suite tellement supérieurs à celles des autres puissances de leur époque qu'ils sont parvenus à installer leur domination sur le monde entier. Telle est la thèse de la supériorité technique de l'Occident et de la révolution militaire européenne. Eh bien, oubliez-la, elle est fausse. En tout cas, partiellement fausse. La domination militaire de l'Occident n'a été qu'une parenthèse de deux petits siècles, bien peu à l'échelle de l'histoire universelle. Phébé, lettre confidentielle en français avec pour slogan une idée d'avance, m'a fait découvrir un livre d'histoire qui fait grand bruit dans le monde intellectuel anglo-saxon. Ça s'appelle Empires of the Weak, The Real History of European Expansion and the Creation of the New World Order. Et c'est l'œuvre d'un universitaire britannique, Jesse Sharman, qui enseigne l'histoire des relations internationales à Cambridge. Mais le New York Times lui a consacré un article hyper élogieux car Sharman met en pièce la thèse de la supériorité militaire européenne. Les Européens, explique Sharman, se sont longtemps raconté des histoires. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, leur fameux empire ne consistait qu'en des comptoirs, situés à la périphérie des vrais grands empires, en particulier ceux des Ottomans, des Moghols et des Kings. Et si ceux-ci toléraient leur présence sur les franges maritimes de leurs immenses états continentaux, c'est parce qu'ils y trouvaient leur compte sur le plan commercial. Les Européens, des commerçants, voulaient parcourir les mers, eh bien, libre à eux.
Il y a tout de même eu, Brice, le cas de la conquête des Amériques. Et là, il ne s'agissait pas seulement de comptoirs situés sur les côtes.
Oui, vous avez raison, Mélanie. Cortés a attaqué l'Empire aztèque avec 400 soldats et Pizarro n'en avait que 170 lorsqu'il s'en est pris à l'Empire Inca. Mais le premier a utilisé la ruse et il a fédéré les ennemis des Aztèques. Il a dû sa victoire, c'est bien connu, à la croyance de l'empereur Moctezuma dans le retour du dieu Quetzalcoatl. Et la supériorité militaire des Espagnols d'ailleurs a été très exagérée par les historiens européens. Les hommes de Pizarro n'ont d'ailleurs utilisé que leurs épées et non pas les mousquets qu'ils utilisaient sur les champs de bataille européens. Bien maigre supériorité technologique, convenez-en. Mais les Espagnols apportaient avec eux des maladies infectieuses face auxquelles les Indiens n'étaient pas immunisés, en particulier la variole et le typhus. Enfin, la pénétration des conquistadors au XVIe et XVIIe siècle en Amérique a été très surestimée par les Européens. Et lorsqu'un nouvel ordre international s'est dessiné à la fin du XVIe siècle, les petites nations européennes n'y jouèrent qu'une partition modeste.
Mais selon votre historien britannique, Brice, nous serions restés longtemps persuadés du contraire.
Mais oui, parce que l'une des grandes idées de Jesse Sharman, c'est qu'on réécrit toujours l'histoire du point de vue du vainqueur. Or, l'histoire mondiale ayant connu une réelle hégémonie européenne fort brève, quelque part entre la fin du XVIIIe siècle et la moitié du XXe, des Lumières donc à la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez, les historiens se sont persuadés que celle-ci était inscrite dès le départ en 1492, et ce n'était pas le cas. Je cite Sharman, « Si les petites victoires européennes ont bénéficié d'une telle publicité, c'est que les Européens allaient gagner à la fin ». Alors que les empires ottomans, moghols et chinois, qui étaient bien plus puissants, ont eux perdu à la fin. Mais même ces victoires finales n'ont pas le caractère massif que les Européens se sont plu à prétendre. En Algérie, la France dut déployer jusqu'à 100 000 soldats dès le milieu du XIXe siècle pour l'emporter. Le plus amusant, ajoute Sharman dans ses interviews, c'est que les universitaires déconstructivistes, les tenants de l'école post-coloniales reprennent à leur compte les légendes de la supériorité technique et militaire de l'Occident à l'appui de leur thèse. Ce qui intéresse aussi Sherman, c'est l'idéologie impériale. Comment certaines nations européennes ont pu imaginer que la domination de territoires immenses situés à des milliers de kilomètres de leur capitale allait les enrichir ? Eh bien, tel ne fut pas le cas. Quant au mythe de l'hyper-rationalité des Occidentaux qui leur aurait assuré une supériorité incontestable, eh bien il en rit, je le cite, « Les grandes organisations, dit-il, y compris les armées et les États, n'apprennent pas à devenir plus efficaces et ne sont pas pénalisées pour leur inefficacité. » La grande leçon de cette révision historique, c'est que la fermeture de la parenthèse européenne de l'histoire annonce une espèce de retour à la norme de toujours, à savoir la domination des grands empires continentaux asiatiques, la Chine et l'Inde.
Merci beaucoup Brice Couturier. Votre chronique à retrouver et réécouter sur franceculture.fr.